En piste, à bord du manège des papous. À l'affiche d'Île Conseil, Clémentine Mélois pour des lettres de vacances, Patrick Beignet et notre poète Jacques Vallée pour les dissertations du dimanche. C'est la pause philo avant l'épreuve du bac mercredi. Et le prof, c'est Jean-Bernard Pouy.
Ce qui me gêne beaucoup chez un poète, c'est que les poètes disent premièrement, deuxièmement, et maintenant concluons. Ce serait bien que Victor Hugo, par exemple, dise de temps en temps, au bout de la page 42, et maintenant concluons.
Place au sport et à la versification synchronisée. Un morceau de choix pour collectionneurs par Emmanuel Brouillard. Et puis, quand un papou lit un autre papou, il y sera question de Patrice Delbourg. Et le jeu des bourrimés, Jacques Jouet, Lucas Fournier pour les poèmes. Et côté critique, Jacques Vallée et Dominique Muller.
Soyez vous-même, l'espinasse, un poète pour pot de départ dans une manufacture de porcelaine. Ne crachez pas dans une soupe qu'on ne vous a pas servie. Mais peut-être dans un magasin de porcelaine faut-il toujours un éléphant. Dans ce cas, c'est réussi.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h59 pour un numéro des papous à télécharger pendant un an. Postez vos remarques, questions sur les pages Facebook et franceculture.fr des papous dans la tête. Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Merci de votre écoute fidèle et bienvenue au nouveau. Et pour ouvrir une page sur les vacanciers, heureux vacanciers du mois de juin, sous la pluie peut-être, mais ailleurs, la pluie est toujours plus fine. Reçu une carte postale de VB, parti en Islande pour un mois de marche et d'écriture. Ailleurs, le froid est toujours plus chic. Quand on reste, on espère la lettre amie qui racontera « Ailleurs, la vie est tellement plus marrante ». Je crois qu'Odile Conseil est partie pour quelques jours la Vénarde. Et elle écrit parce que ce n'est pas une égoïste, Odile, elle partage. C'est bien ça, Odile, c'est bien vous ?
Mon personnage, en tout cas, est en vacances,
oui.
Au bord de la mer, dans un pays qu'on suppose lointain, et écrit à sa maman.
C'est très bien, ça.
Pour une raison très précise. Ma chère maman, depuis 3 jours ici, nous profitons du soleil, de la mer, des transats, du rosé qui coule à flot, du buffet à volonté. Mais depuis que nous sommes arrivés, un petit quelque chose, un je ne sais quoi, m'empêche de profiter totalement des vacances. Une pensée floue mais tenace qui voile mon esprit, me titille le cortex, crée une espèce d'écran entre la réalité et moi. J'ai l'impression de me promener sous une épée de Damoclès, un peu comme Caïn poursuivi par l'œil de Big Brother, tu vois. Et cet état d'intranquillité qui en résulte pendant les vacances, tu avoueras que c'est agaçant. Maintenant je sais. La lumière s'est faite hier en contemplant une grosse méduse qui gisait sur le sable. Pourquoi a-t-elle déclenché cette prise de conscience? Je ne sais pas. Cette chose molle, flasque, translucide, tellement gracieuse quand elle évolue dans l'océan, tellement répulsive pour nous. Je réfléchis, je m'interroge, tourne l'affaire en tous sens, mais je ne sais pas. J'en parlerai bien sûr à mon psy en rentrant. Mais je ne t'écris pas pour te parler d'une méduse, mais du truc qui hante mon inconscient depuis 4 jours. J'ai oublié de poster le courrier pour l'impôt sur la fortune et il faut impérativement le faire avant le 15 sous peine de rétorsion financière. Tu sais comme ils sont. Ma petite maman, puis-je te confier cette tâche? Si tu prends le train de 7h56, tu peux avoir la correspondance avec le car de 11h09 et tu seras chez nous vers midi. La gardienne de la résidence a un double des clés. C'est celle qui remplace Marilyn, notre gardienne habituelle, pendant les vacances. Comme je la connais très peu, tu imagines bien que je ne veux pas lui demander d'entrer chez moi. Si elle n'est pas à la loge, tu la trouveras certainement au square, 3 rues plus loin, à gauche quand tu sors de l'immeuble, tout droit jusqu'à la pharmacie, puis à droite et encore à droite au pressing. Tu en as pour 10 minutes, disons un bon quart d'heure pour toi avec ta canne. Tu ne peux pas la rater, elle a des mèches roses. Quand tu seras dans l'appartement, n'oublie pas de désactiver l'alarme. À gauche, au-dessus du miroir, si elle est trop haute pour toi, il y a un escabeau derrière la porte de la cuisine. Il faut faire le code B3223X0. Tu as 20 secondes pour la neutraliser. Sinon, les gars de sécurité C'est Plus Sûr appliquent et ils vont te tirer les oreilles pour les avoir dérangés pour rien. Tu sais comme ils sont. L'enveloppe pour les impôts doit être sur mon bureau. N'hésite pas à fouiller, il y a peut-être un peu de désordre. Tu sais comme je suis. Si tu ne la trouves pas, c'est qu'elle est peut-être sur le meuble de l'entrée ou sur ma table de nuit. Enfin, elle est forcément quelque part. Tu finiras bien par mettre la main dessus. Je pense que je n'avais pas mis de timbre. Prends-en avec toi, s'il te plaît, parce que le bureau de tabac est fermé. Sinon, tu devras aller en acheter à la poste. C'est plus loin, sur la Grand Place. Demande ton chemin, tout le monde connaît. Mais la lettre partira plus vite, ce qui sera somme toute aussi bien. Méfie-toi, la poste ferme à 16h pendant l'été. Je me rappelle à l'instant que j'ai oublié de mettre à sécher une lessive. C'est affreux, elle doit commencer à sentir le moisi. Peux-tu profiter d'être là pour relancer un cycle de lavage à 40 degrés ? Il faut tourner 3 fois vers la droite le gros bouton et appuyer ensuite sur celui avec une flèche et étendre ensuite le linge. Voilà, ma chère maman, la mission que je te confie. En un sens, je suis contente de te donner une occasion de sortir un peu, de changer d'air. Tu y as bien droit, toi aussi. Quand tu seras à la maison, n'hésite surtout pas à manger un morceau. Il doit rester un yaourt et un morceau de camembert au frigo. Il a plus de 2 semaines, mais à la guerre comme à la guerre, comme disait papa. Tu sais comment il était. Nous rentrons le 28. Je viendrai te voir dans la semaine qui suit. Je sais déjà ce que je vais t'apporter, des chaussons brodés. Ils en font de très jolis ici. Je suis sûre que tu feras des envieuses à la maison de retraite. Je t'embrasse bien fort, René-Pierre et les enfants aussi. N'oublie pas de remettre l'alarme en partant. C'est le même code, sauf qu'il faut taper 1 à la fin au lieu de 0.
C'est signé.
C'est signé Sybille, elle s'appelle Sybille.
Sybille, elle s'appelle. C'est ce qu'on appelle une bonne fille.
Oui, mais bien sûr.
Ah, elle est tendre avec sa maman.
Elle lui écrit une longue lettre.
Qu'elle ait à manger, bien sûr.
Maman va avoir de l'occupation pendant un moment pour la lire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Bernard Pouy ? Elle est monstrueuse, non ?
Qui ?
La Sybille.
Non, la mère est monstrueuse.
Ah bon ?
Bah, d'avoir réussi à se faire esclavagiser par sa fille comme ça, il faut quand même...
Ah, ça veut dire que c'est elle qui est monstrueuse.
Bah ouais, sinon la fille aurait jamais osé demander ça à sa mère.
Oui, donc leurs rapports sont forcément conflictuels.
On ne demande pas impunément à sa mère de manger un vieux bout de camembert.
Elle est sympa, elle lui ramène des chaussons brodés quand même, c'est attentionné.
Oui, oh bon, bah alors si vous plaidez pour l'indulgence.
Non mais la fille va voir un psy, on sent bien qu'elle a beaucoup de problèmes non résolus, y compris avec sa mère.
Mais elle a beaucoup d'argent.
Je crois qu'elle va être punie, la fille.
C'est possible, oui. Clémentine Mélois.
Oui, je suis Sarah.
C'est vous la maman ?
Oui, je suis sa vieille maman.
C'est bien, vous avez gardé une voix tellement jeune.
Un petit verre de cognac tous les soirs avant d'aller se coucher et on a cette voix-là.
Ça entretient. Vous lui répondez ?
Je réponds. Ma chérie, merci pour ta gentille lettre. J'ai été très touchée que tu penses à prendre des nouvelles de ta vieille maman alors que tu profites d'un repos bien mérité avec René-Pierre et les enfants. Rassure-toi, j'ai pu poster à temps ta lettre pour l'impôt sur la fortune. Cela ne s'est pas fait sans peine, mais je ne veux pas t'ennuyer avec mes soucis de vieille dame, tu sais comment je suis. J'ai voulu prendre le train de 7h56 comme tu me l'avais indiqué, mais il avait été annulé à cause de l'alerte canicule. Il paraît que les rails se mettent à gondoler sous l'effet de la chaleur. J'ai pas trop compris, en tout cas le train avait été remplacé par un car, tu sais comment ils sont à la SNCF. Du coup, j'aurais pas pu prendre la correspondance de 11h09. Alors finalement, j'ai appelé un taxi. Le chauffeur était un jeune homme très sympathique, très poli. On a eu le temps de parler de 1000 choses pendant le trajet. On a été un peu retardé par les embouteillages à l'arrivée, mais on a mis 4h30. Ça a été plus vite que je ne l'aurais pensé. Je t'ai fait envoyer une note pour le voyage.
Bon, oui.
Une fois sur place, j'ai fait la connaissance de Priscilla, votre logeuse, une femme charmante et très méritante. Elle me dit que tu oublies parfois de la saluer quand tu la croises et que tu ne lui donnes pas souvent des étrennes. Je voudrais pas avoir l'air de te gronder à ton âge, mais enfin tu pourrais faire un petit effort, c'est pas comme ça que je t'ai élevée. Pour me faire pardonner, je me suis permis de lui faire cadeau du petit vase Ming qui était sous vitrine dans l'entrée. J'ai pensé qu'il ne vous manquerait pas et ça a eu l'air de lui faire tellement plaisir. Elle l'a posé en bonne place au-dessus de sa télé. Ensuite, j'ai eu toutes les peines du monde à désactiver l'alarme. Tu sais dans quel état il m'a vue, j'arrivais pas à me relire. J'ai dû taper E3728X au lieu de B3223X. Enfin, c'est ce que m'a expliqué le charmant jeune homme de chez Sécurité, c'est plus sûr. Il avait l'air tellement navré d'avoir eu à défoncer la porte, le pauvre. Du coup, je me suis permis de lui faire cadeau du petit vermeer qui était au mur de votre chambre. Tu sais comme je suis. Il m'a dit que j'étais super swag. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça m'a fait plaisir. Ensuite, Priscilla, la logeuse, Sébastien, le chauffeur de taxi, et Fred, de chez Securitas, c'est plus sûr, ont insisté pour m'accompagner à la boîte aux lettres, poster ton enveloppe. La preuve qu'il reste des jeunes gens serviables dans ce bas monde. Au retour, je les ai emmenés déjeuner à la Cloche d'Or, le restaurant au coin de la rue. Merci pour le camembert, mais tu sais qu'avec mon cholestérol, j'ai plus le droit au fromage. À la Cloche d'Or, on nous a servi des assiettes presque vides, mais ça me change des menus de la maison de retraite. J'ai fait envoyer une note pour le repas. Oui. Ensuite, Sébastien, chauffeur de taxi, m'a ramené à la maison en prenant les nationales pour qu'on profite mieux du paysage. Il a eu la gentillesse de m'attendre en bas de l'immeuble toute la journée, tu te rends compte? Ah, c'était vraiment une merveilleuse journée. Je suis heureuse d'avoir pu te rendre ce petit service. Avec tout ça, tu m'excuseras d'avoir oublié de réactiver l'alarme en partant, mais avec la porte défoncée, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Embrasse bien René, Pierre et les enfants de la part de leur mamie Nou. Bonne fin de séjour, ma chérie. Maman.
Bon, maintenant qu'elle a envoyé l'argent pour l'impôt sur la fortune, elle n'en a plus. Elle n'a plus de Vermeer, elle n'a plus de Vasming. Dites-moi, rassurez-moi, vous avez encore des petites choses dans un coffre, Odile ?
Je vous rassure, le Vermeer était une copie.
Ah,
le vrai est au coffre.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
C'est tout à fait ça, Jean-Bernard. Et mercredi, vous savez ce qui se passe mercredi, c'est le grand jour pour les élèves de terminale avec l'épreuve reine du bac, la dissertation de philosophie, même pour les scientifiques. Malgré un coefficient ridicule, elle est un enjeu. Alors, je vous devine, lycéens, les yeux cernés par les soirées entre road foot et révision. Je vous sens, parents, angoissés, aux petits soins pour vos enfants et leur avenir. Faites une pause avec nous. Et la dissertation de philo des papous du dimanche, l'examinateur, c'est lui, c'est Jean-Bernard Pouy. On rêverait de repasser le bac avec lui. Les candidats, Patrick Beignet et Jacques Vallée. Alors, le sujet de philo, c'est donc Jean-Bernard Pouy qui l'a imaginé, un sujet qui, selon la règle de notre jeu, repose sur une citation vraie-fausse, dont il ne communiquera que deux mots. Aux candidats de faire preuve d'imagination pour l'inventer, cette citation, et ensuite s'amuser à rédiger leur dissertation. La philo, c'est un plaisir. Dites-moi, Jean-Bernard, puis votre sujet s'adresse à quel genre de terminale ou peut-être des premières?
À tous ceux qui n'ont jamais eu le bac ou tous ceux qui ont été virés avant de le passer. Enfin, ça dépend.
D'accord.
Dans l'un de ses propos, datant de 1913, Alain note avec dérision et humour blablabla, Voltaire, blablabla, platonique, blablabla.
Oui.
Vous commenterez, si possible, à sa manière, cette étonnante allusion critique à l'un de ses maîtres.
Ça paraît extrêmement difficile, non?
On sent l'ancien élève d'Henri IV, en tout cas.
Ah ben oui, mais oui.
C'est déjà...
Alors, Patrick Beignet étant le seul à savoir qu'Alain était professeur Henri IV, évidemment.
Mais pourquoi dites-vous ça? C'est pas parce qu'on n'a pas ramené notre savoir qu'on ne le savait pas. Merci Patrick. Alors les deux mots sont Voltaire et...
Platonique.
Platonique. Au singulier?
Voltaire, oui.
Platonique.
Ah, platonique, oui.
Bon, alors, c'est un sujet, en tout cas, Jean-Bernard Pouy, Voltaire platonique, c'est un sujet qui devrait aller très bien, Jacques Vallée.
Ah oui, c'est surtout l'hideux sourire de Voltaire que je vois.
D'accord.
Derrière le côté platonique.
Bon.
Parce que c'est pas sympa d'être platonique tout le temps.
Oui, puis Jacques Vallée platonique...
On n'y croit pas?
Bon, on va voir.
Et puis Patrick Beignet, est-ce que vous avez une question à poser au professeur Pouy?
Non, non, le sujet est limpide,
bon,
pas de problème.
Bien cadré, et puis je suppose que ça fait un petit peu partie du cours que vous a fait Monsieur Pouy toute l'année, non?
Cours est un bien grand mot.
D'accord. Allez, au travail. Travail a été fait, ils ont tiré la langue, soupiré, mais Patrick Beignet et Jacques Vallée sont en mesure de vous lire leur copie, Jean-Bernard Pouy. Et vous, vous allez nous redonner votre sujet.
Dans l'un de ses propos, datant de 1913, Alain note avec dérision et humour, blablabla, Voltaire, blablabla, platonique, blablabla.
Oui.
Vous commenterez, si possible, à sa manière, cette étonnante allusion critique à l'un de ses maîtres.
Qui veut commencer? On a deux candidats. Jacques Vallée, oui, vous voulez être le premier, hein, comme ça c'est fait.
Oui, oui, voilà, exactement.
Bon, c'est niveau bac, hein.
Oui, oui. Oui,
enfin, quoi qu'il ait, il a dit au début que ça s'adressait aussi à tous les gens qui n'ont jamais eu leur bac, hein, ce ouais. sujet.
C'est non, ce mais que vous avez dit. Aussi à ceux qui ont été virés des lycées, qu'il a dit.
C'est votre cas. Très bien. Donc, on est détendu, tout va bien. On commence par une introduction. Vous avez fait un plan classique.
Mais je pourrais déjà imaginer le sujet, non?
Absolument, ce serait bien.
Si vous ne voulez pas que j'imagine le sujet.
Non, mais je n'osais pas vous le demander. Je ne voulais pas vous brusquer. Alors... Ah, ce n'est pas tant le sujet que vous devez imaginer que la citation.
Ce n'est pas avec l'air pervers et le hideux sourire qu'a Voltaire, dans le buste de Houdon, que l'on peut croire aux déclarations d'amour platonique de son Candide.
C'est pas mal, c'est intéressant, non, Jean-Bernard Puy?
Très intéressant.
Vous avez bien compris, oui. La citation.
Je crois que je vais changer d'académie.
Alors maintenant, vous traitez le sujet classiquement.
Oui, introduction. Quelle est la question? Montrer qu'Alain critique l'un de ses maîtres? Cette question mérite-t-elle d'être posée? Nous l'allons voir.
Oh, très bien, nous l'allons voir, oui.
Mais avant, nous essaierons de répondre plus directement au sujet. Dans une première partie, nous montrerons que Voltaire n'est pas un marrant. En effet, lui qui a la réputation de rire de tout et de se moquer des grands philosophes, notamment de Gottfried Wilhelm Leibniz, s'est surtout illustré en écrivant des tragédies. Oui. Dans la seconde partie... On essaiera de montrer comment Alain est injuste de chercher la petite bête avec Voltaire. Car Voltaire, en prince du rire sarcastique, voire du pince sans rire. Alors, premièrement, Voltaire a la réputation de tirer la couverture à lui. Et conséquence, certains philosophes rivaux se retrouvent mis à nu. C'est le cas de Rousseau. Qui se retrouve dans le ruisseau, c'est la faute à Voltaire. Et surtout le cas de Leibniz, dont il caricature la pensée profonde avec son Candide. Je voudrais donc ici, je suis toujours dans la première partie de mon exposé, réhabiliter le grand Leibniz, ses discours métaphysiques et son « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Je remarque ici... En saluant ce lumineux optimiste dont nous avons tant besoin dans les froides neiges du présent, que cet aphorisme justifie tout à fait que la question initiale soit posée. Si tout est pour le mieux, Alain a raison de critiquer Voltaire. Deuxième partie. Cependant, Nietzsche écrit dans le Crépuscule des idoles qu'à force de vouloir rechercher les origines d'une pensée, on devient écrevisse. C'est la raison pour laquelle je défendais ici Voltaire, roi du pince sans rire. Écrevisse pince, j'espère. Ah, j'espère oui. que l'examinateur remarquera comment je suggère subtilement ici la manière d'Alain qui me qualifie dans son sujet d'humour et de dérision. Bon, pour en finir avec l'écrevisse, inutile de remonter au fond des siècles pour savoir que si Voltaire faisait la gueule lorsque M. Houdon modelait son buste, c'est évidemment parce qu'il venait d'essuyer un affront de sa maîtresse. On peut alors regretter qu'Alain prenne ce prétexte pour mettre en doute les amours candides de Candide. J'ajouterai qu'il aurait pu, dans le même temps, se passer de critiquer son maître et de poser une telle question. Maintenant, concluons, il est temps. On peut se demander si les propos d'Alain ne sont pas décousus et si c'est nécessaire de me demander à moi, élève, de les recoudre. De plus, l'agressivité que montre Alain vis-à-vis de Voltaire fait douter qu'il s'adresse vraiment à l'un de ses maîtres. Si c'est le cas, nous lui disons « Un peu de respect, monsieur Alain, pour vos maîtres. » C'est là-dessus que je veux terminer.
C'est brillant, hein? Oui, oui, Eva applaudit, oui. Ah oui, enfin bon, nous, on n'est pas l'examinateur Puy, hein.
Oui.
Ah bon?
Alors... Je sais quand même, dans la classe, il s'est déjà imposé tel que M. Vallée est un poète. Et qu'il n'y a qu'une chose dans la vie qui l'intéresse, c'est la poésie. D'ailleurs, ça se voit assez bien dans son texte. Il oublie un peu le sujet, le monde, le reste, pour s'engager dans des mots qui soient poétiques. Alors, ce qui me gêne beaucoup chez un poète, parce que ça n'existe pas dans la poésie, c'est que les poètes disent « premièrement, deuxièmement, et maintenant concluons ». Ce serait bien que Victor Hugo, par exemple, dise de temps en temps, au bout de la page 42, « et maintenant concluons », ce qui ferait rire tout le monde, comme fait. Et bah alors bon, il y a quand même un certain effort pour rejoindre l'humour et la dérision d'Alain, mais à travers sa pince et son écrevisse, c'est plutôt Alphonse Allais. Je crois qu'il y a un petit glissement entre Alain et Alphonse Allais.
Bon, enfin, ça mais... prouve sa culture riche, quand
même.
Oui,
non, mais ça démarre d'un très très bon sentiment. Alors, le reste, c'est la vie de Voltaire. Personne n'a jamais rien compris à Voltaire. Parce que d'un côté, il écrit des conneries, de l'autre côté, l'affaire Calas.
Ah oui.
Oui, enfin bon, voilà. Comme Rousseau, hein, il écrit. Il abandonne ses enfants en même temps qu'il écrit un livre de pédagogie. Enfin, bref. Donc, oublions Voltaire. Et passons à la conclusion. Ne serait-ce les indications de structure, c'est un devoir que j'ai beaucoup apprécié. Pour une raison quand même assez forte, c'est que c'est le contraire, mais absolu, des cours que je leur donne en classe. Où j'essaie d'être constructif, patient, sûr de mes pensées. Là, ça se laisse guider. Ça se laisse guider par une humeur. Donc je lui mettrai un 15.
Oh, c'est bien.
Ouais.
C'est le genre de note qu'il a eu toute l'année.
Ah non, il a un peu baissé.
Ah bon? Le jour de l'examen, il s'est écroulé. Content quand même, Jacques Vallée.
Oui. Ben, c'est vrai que j'ai un côté réfractaire, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que je voulais être bon élève en mettant premièrement, deuxièmement.
Oui.
Je voulais qu'il se repère dans la poésie. J'ai toujours compris que mon professeur était dénué de tout sens poétique.
Donc, Monsieur Vallée, il serait temps que vous compreniez que vous n'êtes pas un bon élève. J'ai toujours été bon élève. Non, vous êtes un élève à part.
Bon, il y a un deuxième élève.
C'est un clinamen, on l'appelle notre clinamen la classe.
Bon, vous avez un deuxième élève, je ne sais pas si vous étiez dans la même classe tous les deux, Jacques Vallée, Patrick Bénissi.
Si, on était... Mais lui était devant et moi j'étais derrière.
J'aurais toujours voulu être derrière.
Mais... Donc, c'est Patrick Bénier, et Patrick Bénier a imaginé lui aussi la fameuse citation.
Les pages les plus célèbres de Voltaire ne sont guère à mes yeux que du blabla platonique, quoi qu'en ait pu dire Madame du Deffand.
Ah, c'est intéressant, c'est très différent de la version de Jacques Vallée.
C'est pas poétique pour deux sous.
Non, je n'ai pas osé le dire.
Non, puis la reprise du mot blabla dans son sujet, c'est
assez fort.
C'est habile.
Ah, très bien. Donc c'est
ça n'a rien à voir avec le sujet de départ, mais c'est habile.
Non, mais ça prouve qu'il a de l'imagination et de la culture, quand même.
Oui.
Un peu de conviction pour m'encourager.
Il l'a dit d'un ton un peu indifférent.
Elle ne pose pas des questions, les affirmations.
Bon, donc vous vous jetez dans la dissertation, Patrick.
Je me jette sans bouée, mais là, j'avais prévu de dire le sujet en fin d'introduction.
Ça va faire... C'est pas grave, on le réécoutera avec un grand plaisir. Un sujet de Pouille, c'est toujours une pépite.
Oui, d'accord.
C'est assez rare d'ailleurs, un sujet de philo de Pouille. Donc...
Oui, c'est assez rare, oui.
Soyons simples, la célèbre injonction qui ouvre les propos d'Alain est tout un symbole. Cette exaltation de la simplicité ne peut venir que d'un être qui se refuse au gouffre de la pensée. Comment alors s'étonner de son rapport à Voltaire? Dans un de ses propos datant de 1913, il note avec dérision et humour « Les pages les plus célèbres de Voltaire ne sont guère à mes yeux que du blabla platonique, quoi qu'en ait pu dire Madame du Deffand. »
Oui.
Si le désir d'avoir une bonne note ne nous retenait pas, nous serions d'une grande sévérité. Nous tâcherons plutôt d'être constructifs en examinant les dessous de cette alliance inévitable et paradoxale du patriarche de Ferney et du philosophe normand. Première partie. La philosophie comme sport scolaire et universitaire est en France une invention de la petite bourgeoisie, née de ses complexes et du vertige qu'elle éprouva arrivée au pouvoir. C'est l'histoire de notre XIXe siècle. En ce sens, la bourgeoisie ne pouvait trouver meilleur allié que Voltaire, qu'elle se plut à mettre copieusement en scène au long des XIXe et XXe siècles, et ça continue d'ailleurs encore. En Voltaire, Alain trouva donc un parfait modèle, ce qui se reflète dans le choix d'un pseudonyme, Voltaire ou Alain, l'espèce de bonhomie du pseudonyme qui efface toute identité, une sorte de masque insipide. C'était ma première partie qui réfléchissait sur l'accord entre Voltaire et Alain. La dérision et l'humour, bien connus d'Alain, enfin bien connus de notre examinateur d'aujourd'hui, se cristallisent dans la formule de « blabla platonique » dont il est absolument impossible de savoir ce qu'elle veut dire exactement. Platonique, ce terme est généralement associé à « amour » et possède quelque chose d'un peu dépréciatif, au moins dans les milieux que je fréquente. Voltaire ne semble pas avoir une conception très haute de l'amour. Ni Lagarde, ni Michard, ses maîtres, ne nous ont donné une vision bien romantique de sa vie amoureuse. Ses rapports avec sa nièce n'ont rien de très excitant non plus. Quant à la vie sexuelle d'Alain, le philosophe normand, nous la supposerons tout aussi calme. Nous nous refusons même à imaginer la tête de Madame Alain. Aussi trouvons-nous mal placé le philosophe normand de critiquer Voltaire pour blabla platonique. Troisième et dernière partie. Le surgissement in extremis de Madame du Deffand est évidemment surprenant. Où un élève médiocre dirait qu'elle arrivera comme Zorro, nous dirons que c'est une véritable Dea ex machina. J'ai fait du latin en quatrième. Et qu'elle tombe à merveille pour amener une troisième partie brève mais intense. À quelle remarque de Madame du Deffand Alain peut-il songer? Force vous est de reconnaître que nous ne le savons pas. Mais ajoutons aussitôt que ce n'est pas grave, car la principale caractéristique de Madame du Deffand est de dire toujours le contraire de ce qu'elle pense. Donc, si nous savions ce qu'elle a écrit de Voltaire, nous devrions déduire qu'elle en pensait le contraire, ce qui ne nous avancerait pas beaucoup. Visiblement, seul un Jacques Derrida pourrait résoudre un tel problème, et n'étant pas Derrida, nous renonçons.
Oh, bah, c'est bon. Enfin, je ne dis rien, c'est vous qui allez décortiquer cette dissertation de Patrick Beignet, votre élève en philo.
Non, c'est très bien. Il vaut mieux que ce soit pas Derrida, parce que ça serait terrible pour moi, son professeur. plusieurs choses. Et, c'est-à-dire que c'est toujours brillant, comme d'habitude. Oui. C'est ce qui énerve tous les professeurs de Patrick Beignet.
Ah bon?
Car, non seulement il répond au sujet, il est brillant, ainsi de suite, mais il se débrouille toujours pour en apprendre aux profs.
Ah.
Alors là, tous les trucs sur Madame du Devant, du Défend, qui ne sont pas vraiment dans le sujet, je trouve. Bon, maintenant je sais. Je sais qui c'est. Bon,
oui, donc vous lui dites merci.
Donc je dis merci, c'est assez agréable. En revanche, ça revient plusieurs fois, il y a quelque chose qui me choque un tout petit peu, c'est Normand. Alors, oui, effectivement, bah, il a été à Rouen, c'est vrai, avant d'aller à Paris, mais il est né quand même dans le Perche. Donc, c'est mieux de dire à Alain que c'était un percheron avant d'un Normand. Et il est né à Mortagne, oui. Mortagne-en-Perche, qui, comme vous le savez parfaitement, Françoise, est la capitale du Boudin.
Oui.
Donc,
oui.
On aurait pu, avec humour et dérision, faire une allusion entre Voltaire et le Boudin, par exemple.
Ah.
Bon, ce qu'il a fait avec d'autres mots, hein,
oui.
Relativement. Donc, je ne mettrai que 15.
Ah oui,
il a 20 toute l'année, alors bon, ça ferait
oui, la même note.
Je mettrai que 15 parce qu'il y a une allusion quand même malheureuse, à la gare des Michards. Alors, je rappelle qu'on est en cours de philo, oui. Que la gare des Michards, c'était l'année dernière, et que maintenant on a passé une année supérieure.
Ah oui, d'accord, oui, oui. Bon, est-ce que vous êtes satisfait, Patrick? Apparemment, c'est moins bien que ce que vous avez fait toute l'année. Pourtant, moi, j'ai trouvé ça extrêmement brillant.
Ouais. Ah, non, mais oui. Je voudrais rajouter quand même que je lui ai mis 15 comme Jacques Vallée.
Oui.
Parce qu'à la récré, sinon, ça aurait
été, ah oui,
ça aurait été un enfer. Donc,
oui. Oui, Patrick Beignet.
Je trouve qu'il me trouve meilleur que je ne suis. Mais enfin, bon,
ah, vous croyez?
Il faut que je m'habitue.
En plus, il est très modeste.
Je commence à craindre d'avoir des poursuites judiciaires du syndicat d'initiative de Mortagne.
C'est une très, très jolie ville, donc capitale du Boudin. Il y a le musée
du Boudin.
Alain.
Ah oui.
Et il y a une très belle statue de Freinet.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut découvrir la vraie fausse citation telle que vous l'avez imaginée, vous?
Alors, dans l'un de ses propos datant de 1913, Alain note avec dérision et humour: on peut se sentir voltairien en lisant Voltaire, mais sûrement pas platonique en comprenant Platon.
Ah oui, ça c'est bien, c'était drôle, oui.
Oui,
oui. Oui.
C'était net.
Oui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous deux, les candidats de cette
Moi,
situation?
Moi, je trouve ça pas drôle, mais...
Ah bon?
Pas terriblement non plus.
Y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans. Ouais, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak. La petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y a pas plus d'amour sous pellicule que de flin sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, 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 monde cinglé, hey, 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 j'étais dans la peau, oh, 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 wow, j't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent la pétard pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages, ouais, qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le Crozidiamine Dada, oh, du sang à la une des gazettes. Pauvre planète.
Louis, Mathieu, Joseph, Anna, la famille Chédid. T'as beau pas être beau. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour à suivre jusqu'à 13h59. Moi aussi, j'ai fait du sport. Quand un papou lit un autre papou, il sera question de Patrice Delbourg. Et le jeu des bouts rimés pour les papous Jacques Jouet et Lucas Fournier avec la critique des bouts rimés selon Dominique Muller et Jacques Vallée. Cette année, le mois de juin est dédié aux amoureux du foot avec l'Euro. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas les ballons ronds. Ils se consoleront avec les JO de Rio. D'autres sports, presque tous les sports, suivront. Moi aussi j'ai fait du sport, diront les intellos, les artistes, les politiques et les gens comme vous et moi. Et je me souviens qu'à ce jeu de « Moi aussi j'ai fait du sport », Emmanuel Brouillard, papou quelques années, qui un jour a décidé que vivre c'était un sport trop difficile pour lui. Emmanuel Brouillard nous avait enchantés. C'était en 2002, au micro BJFT, comme on disait à l'époque. BJ Bertrand Jérôme. Emmanuel Brouillard.
C'est un auditeur qui m'a envoyé ce témoignage étonnant. Enfin,
ah bon?
Donc, oui, un auditeur de Rouen qui m'a envoyé ce témoignage qui était dans la famille du confesseur de Chateaubriand.
Oui.
C'est Chateaubriand, son confesseur avait demandé de rédiger par contrition la vie de Rancé. Et apparemment, il y a eu un autre essai avant où il parlait de ses souvenirs sportifs. Donc, je vais vous dire, c'est...
Chateaubriand a fait du sport.
Bah, ah, oui. Oui.
Ouais, tiens, pourquoi, pourquoi pas, après tout d'ailleurs, oui. Oui, c'est vrai.
On faisait du sport avant le 20e siècle.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc voilà, voilà ce qu'il dit. La première fois que ce jeune freluquet de Lamartine m'a proposé de venir nager avec lui dans le lac d'Anguin, j'ai cru une proposition malhonnête. La deuxième fois aussi. La troisième fois, je me suis dit, mon petit François-René, n'oublie pas que tu veux être Chateaubriand ou rien. Pour l'instant, tu n'es rien. Tu as 35 ans, tu ne peux plus te permettre de laisser passer aucune occasion de briller. Ce n'est pas quand tu te seras outre-tombe que la gloire te tombera dessus. Allez, fonce avec Alphonse, tu n'as rien à perdre. Et c'est comme ça que mes années sportives ont commencé. En fait, Lamartine n'a eu aucun geste déplacé à mon égard. Il n'avait d'autre intention que de m'initier à une activité qu'il venait de mettre au point et qu'il avait appelée la versification synchronisée. Voulez-vous savoir ce qu'est la versification synchronisée d'après
Lamartine? Oui, absolument.
C'est très simple. Oui. Il faut être deux poètes comme nous. Le premier se jette à l'eau et le deuxième se place à proximité, en tenue de bain, sur le rivage. Le poète nageur alterne l'apnée et la surface. Quand le poète nageur est en apnée, il compose le vers dans sa tête. Quand il refait surface, il le crie au poète de rivage, qui le transcrit et se jette à son tour à l'eau, tandis que le premier en sort. Les rôles sont alors inversés, et ainsi de suite. Quand le poète en apnée ne refait pas surface, c'est toujours un moment délicat de la versification synchronisée. Lamartine est bien gentil, mais après deux pneumonies, je me suis lassé de son lac. Je suis maintenant en convalescence, et dans mon parc de la Vallée aux Loups, je me sens désœuvré. Je sens bien qu'un peu de mouvement me ferait du bien, que mes longues marches ne sont pas assez dynamisantes. Et puis ces marches, je ne les réussis pas comme avant. Hier, par exemple, j'ai raté une marche. C'est très déstabilisant. Aussi ai-je décidé d'accélérer un peu le mouvement. Je ne marche plus, je gambade, je cours, je vole, je sautille. C'est bon pour mes cuisses et mes mollets, et j'ai l'impression que par symbiose, mon style lui-même s'en trouve raffermi. Cependant, la course est bientôt monotone. Certes, je ne passe pas inaperçu auprès des paysans du cru, avec ce par-dessus vêtement que m'a confectionné ma couturière. Mais l'homme ne se nourrit pas que de vanité. Aussi me suis-je confectionné une pelote ovoïde en ficelle, que je pousse du pied en courant. Ça me donne un objectif et une contenance. L'autre jour, je me suis surpris à envoyer ma babale entre deux arbres rapprochés l'un de l'autre.
Comment il appelle cette babale?
C'est une pelote ovoïde.
Ah oui, une pelote ovoïde.
Oui, oui, elle ne devait pas être tout à fait ronde.
Oui.
Donc l'autre jour, je me suis surpris à envoyer ma babale entre deux arbres rapprochés l'un de l'autre. À ma grande surprise, j'ai ressenti un intense frémissement de joie en constatant la perfection de mon tir. J'avais marqué. C'est idiot, mais je crois que si une foule s'était trouvée là et m'avait acclamé pour mon tir, ça ne m'aurait pas déplu du tout. Du coup, j'ai pour l'instant laissé tomber mon génie du christianisme et je m'entraîne toute la journée à tirer entre les deux arbres. Pour corser un peu la difficulté, j'ai installé mon jardinier entre mes deux ormes, à charge pour lui de tenter d'intercepter mon tir. Comme il est complètement shooté, il n'y arrive que fort rarement, ce qui n'est pas pour me déplaire. Tiens, un visiteur, ça doit être Alphonse. Et si je proposais à Lamartine de jouer avec moi à la babale? J'ai une idée, je vais installer deux gaules en face de mes deux ormes. Ce sera son but à lui, faire parvenir la babale entre les deux piquets. Tandis que moi-même, je persisterai à vouloir la fourrer en face. Le jardinier nous arbitrera et comptera les points. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Le soir même, je suis déprimé. Lamartine a emporté 3-1 le match. J'attends le match retour sur son terrain avec impatience.
Il aurait dû continuer. C'était bien de faire de la versification.
Synchroniser.
C'était fragile, des bronches. Ça, c'était la bonne idée. Oui, pour lui. Ça lui allait bien.
Ouais, il était malade, apparemment. Il a pris froid.
Oui, mais il y a des sports pour lesquels on est mieux fait.
Il faut se couvrir. Alors.
Sergent-Cours, la versification synchronisée, c'est formidable.
Oui, tout à fait.
Vous trouvez aussi.
Oui.
Bon, je ne peux pas vous demander si vous avez connu Chateaubriand à cette époque, ça paraît impossible, mais vous avez trouvé un témoignage qui pourrait accréditer quand même raconte Emmanuel Brouillard, qui nous dit bien que c'est du Chateaubriand, mais enfin...
Non, mais c'est plus grave que ça, parce que je suis mis en cause directement, moi, Alphonse.
Ah, vous êtes Alphonse de Lamartine.
Oui, je ne dis pas mon nom, parce que je ne suis pas en promotion actuellement, je n'ai rien publié depuis 10 ans. Alors, non, j'aimerais revenir quand même à quelques points de détail, 2-3 choses. Qu'a soulevé le René à propos de la versification synchronisée. Mmh. Bon, parce que évidemment, aujourd'hui, le château parle de ça comme si c'était anecdotique. Alors que je vous rappelle qu'à l'époque, c'était une pratique très répandue. Si vous voulez, la versification synchronisée, c'est un peu ce qu'est aujourd'hui le football au XXe siècle.
C'est important, cela, à l'époque.
Ah, c'était énorme. Dites-vous bien, d'ailleurs, que le château, à l'époque, misait tout là-dessus. Il visait la carrière internationale, voire même plus. Alors, c'est peut-être d'ailleurs par dépit qu'aujourd'hui il en parle avec détachement, comme vous venez de l'entendre. Mais je vous prie de croire que tous les deux, on s'entraînait. À tel point que, pourquoi le château s'est fait enterrer dans un endroit mi-eau sec, mi-mouillé, lointain de mort. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Alors, bon, tout de même, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que le gros problème de la versification synchronisée, c'est qu'on n'a pas pied.
C'est embêtant.
Bon, c'était d'autant plus embêtant qu'il ne savait pas nager. Alors, pour revenir au sport lui-même, vous l'aurez compris, c'était assez simple. Le versificateur mettait son pied dans l'eau, puis l'autre, jusqu'à temps de faire un verre, pendant que l'autre notait. Oui, ça vous l'aurez compris, c'était tout simple. Hein, je viens de vous l'expliquer. Bien. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, la bourrique, c'est que la difficulté, en fin de compte, elle n'était pas tant pour le versificateur que pour le noteur, à cause du tuba. À cause du tuba, bah oui, parce que si
vous
dites pas.
Qui avait un tuba?
Eh ben Chateaubriand, il avait un tuba et une bouée, parce que monsieur ne savait pas nager. Alors, bon, et d'une, à cause de la bouée, il avait du mal à mettre sa tête sous l'eau. Évidemment. Alors, il se hissait bien sur ses petits bras en poussant sur la bouée, ce qui fait qu'il arrivait malgré tout à basculer le postérieur pour mettre la tête dans l'eau. Hein. Mais enfin, c'était toujours un peu à la limite de leur lot, leur jeu, c'est-à-dire. On était toujours limite de la faute. Bon. Alors, pour ce qui est de la bouée, ça allait encore. Le René se soulevait, on s'en sortait. C'était pas très esthétique, mais il avait la tête dans l'eau malgré tout. Le problème, c'est que quand il remontait, il me lançait son verre.
Et alors, il enlevait le tuba pour faire
Eh bien non, justement, ce qui fait que les juges et moi-même, on n'y comprenait rien.
Ah bah oui.
Bon, alors après ça, une fois que le baigneur m'avait vendu sa phrase, moi, il fallait que je la note. et que je refile le papier au René qui venait de sortir de l'eau, qui était trempé, qui m'en foutait partout. Ah non, je vous jure que quand je l'entends aujourd'hui vous raconter ça posément, monsieur, comme s'il avait survolé les épreuves avec l'amphibisme d'un canard de Barbarie, Londres fraîche glissant sur sa plume, l'oie blanche filant l'alexandrin comme le triton coulant de... le triton coulant de...
source.
Oui, bon, par exemple, voilà, c'est vrai que moi j'avais... Voilà. J'ai toujours eu un problème avec les métaphores. Bon, c'est pour ça qu'on n'a pas une équipe très brillante. J'ai un problème avec la prose aussi. De façon générale, j'ai eu un problème avec l'écriture. Bon, enfin bref. Et toute ma vie, je n'ai fait qu'écrire les mains mouillées. Et avec le recul, aujourd'hui, je crois que ça se voit un peu. C'est pour ça qu'on s'est mis tous les deux au football par la suite.
At the seams, the earth, my earth, it's full of many schemes. And as the sunlight beams, the glory of our sciences and militant alliances reveal their basic worth along the mounds of Dell appliances. Ooh-ee. Ooh-ee. The planet of my dreams, the earth, my earth. I hear its muffled screams, the earth, my earth. And though it often seems from television beams that ignorance is rampant there and governmental goons don't care, I know that I shall not despair and cheat like all the rest. I'll just keep on with what I do now best.
Cheat, 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 go ahead.
I can't do
Frank Zappa, Planet of My Dreams. Quand un papou écrit un livre, roman, biographie, recueil de poèmes ou de nouvelles, eh bien, il en envoie de façon adorable un exemplaire à ses amis papous avec une dédicace. Et les papous s'empressent de lire et puis de raconter un dimanche leur bonheur de lecture. C'est le cas de Lucas Fournier, bon lecteur, Lucas, gros lecteur. Il nous parle de Solitude en terrasse de Patrice Delbourg. Lucas.
Alors, il n'y a pas 36 façons de lire le livre de Patrice Delbourg, Solitude en terrasse. Il y en a exactement 11 697 083.
Oui.
Donc, je vais vous les dire.
Toutes.
Toutes.
Chic, alors.
Oui, parce que chacun des 227 poèmes sans titre qu'il nous offre convoque un poète différent. Patrice a donc choisi 227 poèmes. Les meilleurs sont là. Les plus rares, les plus maudits, les plus désespérément gracieux. Ne comptez donc pas trouver dans cette vaillante anthologie Lamartine ou Sully Prudhomme. Non, ils ne sont pas de la famille. Les nôtres s'appellent Bobby Lapointe, Desnos, Villon, Artaud, bien sûr, mais aussi Audi Berti, Georges Perros ou Armand Robin. Il y a même Victor Hugo, mais là je pense que Delbourg a voulu être indulgent. 227 poètes et autant de breuvages alcoolisés à boire dans 227 estaminets différents, affublés de noms qui vous laissent rêver. Le rendez-vous des amis, la belle époque, le relais de la snare. Oui, Prévert et les enfants du paradis ne sont pas loin. Donc je vous laisse faire l'opération, cela donne 227 poètes, fois 227 alcools, il y a aussi Apollinaire, fois 227 débits de boissons, soit 11 697 083 cocktails possibles. C'est à peine moins que les 100 000 milliards de poèmes de Queneau, qui lui aussi est de la partie. Non, la meilleure façon de marcher avec ce livre, c'est la seule, c'est celle de Patrice. Tiens, à côté Devers, pas Devers sur le zinc, non. Devers, le grand Devers, Patrick Devers. Alors, allez loin des blagueurs du comptoir qui vous balancent leurs brèves, asseyez-vous avec ce livre à une terrasse de café en solitaire, solitaire comme un diamant. Ou
ouais.
Comme un sanglier.
Ouais.
Et regardez les saisons et les passants qui passent. Alphonse Allais annonce en exergue de ce livre que le paradis doit être une terrasse de café qui ne finirait jamais. Normalement, Solitude en terrasse est un recueil de poésie.
Ouais.
Recueil, en cela ne veut pas dire qu'il faut avoir un air recueilli. Non, c'est pas le genre de la maison. Delbourg a pratiqué l'almanach vermouth. Et ne parle qu'en présence de la vodka. Il nous la joue soifard, appelant à la rescousse courteline, pour savoir qu'un verre était de trop, encore faut-il l'avoir bu. Ou mieux, ou pire, il peut appeler un chat, une chatte, être cru, rude, dur. C'est sa petite politesse du désespoir. Ici, on fait dans le sensible, mais pas dans le mièvre. Et pourtant, son recueil, il faut le cueillir comme un objet rare et l'effeuiller. Prenez une page, et vous voilà plongé dans une ambiance, ou plutôt dans une atmosphère, à la fois lointaine et familière. Écoutez ses commencements. Le soleil baisse sa paupière sur le square Camille. Où ça ? Des brumes bizarres traînent sur les promeneurs, comme les robes en papier de reines défuntes. Ou bien, en ce temps-là, on poinçonnait les tickets. Ou encore, sous un tilleul soucieux embardé de l'aurore, Paul-Jean Toulet lape une mélasse de canne à sucre. Chaque phrase nous ouvre un univers où passe la silhouette d'un poète. Alors oui, je sais, le mot « univers » est insupportable. On demande à Nabila « Quel est ton univers musical ?» ou aux apprentis pâtissiers qui flambent à la télé « Quel est votre univers culinaire ?» Sauf que dans l'univers de Delbourg, il y a tous les astres et les désastres, la vie, la mort, et ce regard d'un poète sur les autres poètes, un poète qui vous projette des images, qui fait du cinéma avec des mots. Je ne vais pas continuer avec les clichés parce que je vais avoir tout faux. La dernière épicerie journaux alentour s'arc-bout. On y vend encore des asticots et des roux-doudous, des lignes prêtes à monter pour la chasse aux mérous, des cannes à lancer et d'immenses épuisettes pour collecter tous les soleils bas de la mélancolie. Voilà, on oscille entre Douaneau et Nerval. Alors c'est un livre fort, dense, d'une érudition inouïe, avec un vocabulaire extraordinaire.
Mais ça, c'est tout Delbourg.
Voilà.
Oui.
Voilà. Non, mais pardon d'être sérieux, mais ce livre est une splendeur. Et la poésie, je ne sais pas en parler, il faut la lire. Celle de Patrice, celle de tous ces poètes qui nous donnent envie d'aimer. La poésie reste toujours supérieure à la philosophie. Les mots mettent une raclée aux idées. C'est ce que dit Delbourg, et on est d'accord.
Oui.
Alors au fil des pages, on a envie de s'asseoir à côté de Patrice qui broie et boit son noir et lui susurrer « Non Jeff, t'es pas tout seul !» Même si on sait que si, oui. Alors une dernière chose, ce livre est édité au Castor Astral évidemment. Le Castor comme l'auteur, les pieds et la queue dans la sciure des bistrots et la tête bien sûr dans les étoiles.
I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say goodbye to Colorado, where I was born and partly raised. Your mother says I'm a stranger, my face you'll never see no more. But there's one promise, darling, I'll see you on God's golden shore.
Bob Dylan. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, le jeu des bouts rimés. Sur la table, un chapeau débordant de mots rimant entre eux. Deux à deux, oui, remuons, remuons. Rime à l'ancienne ou rime moderne, où le féminin rime avec le masculin. Faute de goût pour certains, chacun ses goûts. Des mots variés, sans le label poétique. Des mots que chacun d'ailleurs a assumés en les signant. Dominique Muller, Jacques Jouet, Lucas Fournier, Patrice Minet, Jacques Vallée. Alors, voilà la situation. Jacques Jouet et Lucas Fournier sont nos poètes du jour. Ils sortiront du chapeau au hasard 10 papiers, soit 10 couples de rimes, et écriront sur le champ chacun un poème. Rime de hasard pour poème à leur façon. Vous adoriez participer à ce jeu, vous aussi, et vos poèmes nous régalaient. Malheureusement, tous vos écrits ont disparu de notre nouveau site France Culture. Impossible de les faire réapparaître, m'a-t-on dit. Et impossible pour vous de jouer à nouveau, pour le moment en tout cas, et croyez que nous en sommes vraiment désolés. La rubrique commentaires des papous n'est plus adaptée non plus. Le changement détruit-il le passé? C'est un sujet de philo que je vous soumets. Alors, si vous n'êtes pas fâché avec les réseaux sociaux, écrivez vos histoires sur notre page Facebook. Nous serons ravis de vous lire. Les rimes imposées par tirage au sort, les voici, les voilà, chaque jouet remue, plonge sa main dans le chapeau, en retire un papier, vous lisez, Jacques ?
Alors, c'est signé illisible.
Ah bon ?
je pense que c'est... Oui, je ne sais pas. Vatican, Mohican.
C'est moi.
C'est Dominique, elle n'a pas osé mettre vraiment son nom.
Ah si, j'ai mis DM, si.
Rien Vatican, Mohican, vous prenez ?
Vatican, Mohican.
Je prends pour ne pas le refuser à Dominique.
Oh, mais sinon, je l'aurais repoussé. Mais ça ne sera pas la première fois. Allez-y, repoussez-le.
Ah, je vous repousse.
Oui. Ah bon, alors...
Dominico.
Il a refusé.
Il a refusé.
Vous voulez ?
Ah, il est déçu.
Moi, j'étais parti dessus, là, oui.
Bon, allez, un autre.
C'est pas grave. Minet.
On prend.
Minet. Mannequin Peace.
Bah, bravo.
Ramina Grobis. Merci.
On refuse le Vatican, on prend le Mannequin Peace.
Ramina
Grobis, c'est bien.
Oui, Mannequin Peace, ce n'est pas possible.
Bon, déjà deux refus.
Refuser.
Urbi et Orbis, alors...
Vous allez regretter.
On a droit à trois refus, c'est ça.
Oui, vous regretterez toujours Vatican, Mohican, Lucas Fournier.
Dominique Mulin, mais qui a signé très différemment de la première fois.
Oui.
Rien à voir. Cléopâtre en plâtre.
C'est très bien.
C'est bien. Pâtre, plâtre, oui. Jacques Vallée, petite licence.
Oui, tout ce que fait Dominique Mulin maintenant devient parfait.
Merci, serait-on.
Je n'ose plus rien contredire parce qu'elle est traumatisée.
Mais oui, parce que tout ce qui sort de votre bouche, c'est parole d'évangile.
Après.
Minet.
Oui.
On n'a pas encore refusé Minet.
Non.
Emmanuel Mamel. Ah, merci.
Emmanuel, c'est féminin, sans doute.
Emmanuel, oui.
Vous le refusez
deux
pas,
deux Mamel.
Oh là là, oui.
On se demande pourquoi il a. Enfin,
bref. Mamel.
Oh là là, là là là.
Deux très jolis couples, le troisième sera.
Jacques Vallée, zèbre-vertèbre.
Zèbre-vertèbre, il y a le breu, quoi. Il y a pas.
Rime en breu.
Rime en breu.
Zèbre.
Ça va vous accepter.
Jacques Vallée également. Citroën, Troën. Une belle rime masculine avec une belle rime féminine, monsieur Vallée. Hein. Merci. Merci beaucoup.
Non, mais on sent qu'il est contraint, il en a marre qu'on dise qu'il est classique, donc il vire sa cuté, mais violemment.
Quatre, j'en ai encore un à faire.
Oui, s'il vous plaît, Jacques Jouet.
JB. Gazoduc, archiduc.
Il est mignon.
Alors, ça doit faire...
Ça fait cinq
papiers. Ça fait cinq, mon chapeau.
Allez, vous offrez le chapeau à Lucas Fournier qui poursuit le tirage au sort. Bah,
nous avons toujours un refus...
Possible.
Possible.
Oui, sixième coup.
Alors nous allons choisir de JB, interlope avec escalope.
Moi j'en étais sûre, j'ai failli le dire, interlope, escalope.
Bah, il fallait le dire.
Mais c'est tellement beau.
Mais oui, c'est bon.
Vous prenez, vous êtes d'accord Jacques
Jouet. Ça marche.
Oui.
De Jacques Vallée, camouflé et mouflé.
Ouais,
pour l'histoire.
On le jette, non ?
Oui, on le jette.
On le jette.
Allez. Ah, c'est votre dernier jet.
Mais oui, c'est notre dernier jet. Nous poursuivons avec de Lucas, Chouros et Eros.
C'est quoi Chouros ?
Chouros.
Chouros,
c'est des cochonneries qu'on mange dans les restaurants mexicains.
Chouros et Eros.
De toute façon, vous n'avez pas le droit de refuser.
Oui, c'est ça. C'est le frère jumeau de Thanatos.
Oui. Allez, huitième couple.
De JB, limousine et muezzine.
Ah, c'est joli ça. Oui.
On a bien fait de le prendre. Hein.
Ça fait masculin, féminin,
oui.
Non,
ah,
enfin,
j'ai
féminin,
masculin.
Ah, avec imagine, on sait jamais.
Non, depuis le début, on n'en est plus là du tout. Donc, c'est
on a évolué.
Oh, mais c'est brutal.
Avec Dominique Mulin, on revient à la littérature qui nous propose insurgé et expurgé.
Insurgé, expurgé. Et voilà. Le dixième sera...
Et le petit dixième, le voici, le voilà. Et c'est encore Dominique, avec deux mots qui sont lourds de signifiant. Oui. Bartabac et célibat.
Oui.
Bartabac.
C'est déjà toute une histoire
Bartabac
en soi,
et célibat. Oui.
C'est bien. Célibat. Elle a toujours rêvé de tenir un bartabac,
et oui,
Dominique.
Plein de célibataires, justement, d'ailleurs.
Bon, écoutez, vous ferez avec les mots qu'on vous a offerts. Hein. Cléopâtre en plâtre, Emmanuel Mamelle, zèbre, vertèbre, Citroën, Troène. C'est du Jacques Vallée, c'est ça. Hein. Gazoduc, archiduc, interlope, escalope, churros, eros. On dit Ross et Churros. Non, on dit Churros et Ross. Comment on prononce
ça? Dépend des provinces espagnoles.
D'accord, je vais dire Ross. Limousine, muezzine, insurgé, expurgé, Bartabas, célibat. Vous partiriez de quel mot, vous, Dominique Muller?
Dans cette histoire de Bartabas, évidemment.
Ah bon? Évidemment.
Évidemment.
Et après...
Parce que toute une vie se passe, de toute façon, dans un Bartabas. On peut tout raconter dans un Bartabas. Mm-hmm.
Ah oui. On va voir s'il joue avec le Bartabas comme personnage principal.
Il faudra bien
s'en dépatouiller. Oui. Lucas Fournier, presque en compétition, puisque vous avez chacun œuvré de façon poétique avec les mêmes couples de rimes. Tiens, on les réécouterait volontiers, Jacques Jouet.
Les voici. Interlope, escalope, Cléopâtre, emplâtre, Churros, Eros, Gazoduc, archiduc, Citroën, Troène, Limousine, muezzine, Zèbre, vertèbre, Emmanuel, mamelle, Insurgé, expurgé, Bartabas, célibat.
Alors, ce fameux Bartabas avec le célibat qui inspirait tant Dominique Muller lors du tirage au sort, est-ce que ça a été votre point de départ, Jacques Jouet?
Non, non. Pas vraiment.
Vous êtes parti grâce à quel mot?
Oh, plutôt cette ambiance Cléopâtre, gazoduc...
Ah oui, archiduc. Ça va bien ensemble,
limousine,
vous trouvez?
Limousine,
oui. Bon, vous signez vos poèmes, vous en avez fait des wagons.
Ah non, pas du tout, là, j'ai pris deux pseudonymes.
Ah, deux, carrément.
Mais deux pseudonymes enchâssés.
C'est quoi?
Donc, en fait, je m'appelle Jean-Paul Ridoux, mais quand j'écris des poèmes un peu orientalistes, comme ça, je signe Zigua Ibn Bonino.
Zigua Bonino?
Ibn Bonino.
Ah oui, c'est pas facile.
Et là, c'est un recueil de poèmes orientalistes qui s'intitule « Les gaz ».
Oui. Et vous avez choisi quelle forme poétique?
Eh bien, c'est en alexandrin tout à fait classique, français.
Surtout orientaliste, ça tombe bien.
Oui, ça tombe bien, je trouve.
Et les gaz, ça appartiendrait à quel recueil?
Non, c'est le titre du recueil, les gaz.
Ah, et le titre du poème?
Rendez-vous au désert.
Ah, c'est mieux pour un titre de poème, oui.
C'est mieux, ça.
Non, parce que les gaz, pour un poème, c'est un peu particulier. Allez, on écoute.
La reine chevauchait le long du gazoduc.
Ça, c'est beau, ah, tout de suite, c'est magnifique.
C'est Flaubert.
Exactement, exactement.
Il n'y a pas beaucoup d'alexandrins dans Flaubert, mais il y en a un dans Salammbô, en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais.
La reine chevauchait le long du gazoduc, le nez un peu plus court que ne l'eut Cléopâtre. Elle avait rendez-vous avec son archiduc, qui malgré sa laideur et sa gueule d'emplâtre, poursuivait au Soudan ses trafics interlopes. On n'aurait pas parié 4 sous de churros sur son honnêteté, pas même une escalope. Mais il avait des dons sur le plan de l'éros. La reine libéra vivement sa mamelle, sentant venir à point la fin du célibat. Elle avait relu la série Emmanuel en séjour d'étudiante aux zincs des Bartabas. Le sable soulevé cachait la Citroën, diesel de l'archiduc, la longue limousine qui portait sur le toit 10 rangées de Troènes, mis là pour rafraîchir les sièges. Le muezzin appela les croyants, noirs et blancs comme un zèbre. On disait qu'au désert campaient des insurgés. Le baiser fut fougueux, descendant les vertèbres, jusque... Non, c'est la fin du poème expurgé.
très 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 joli. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Dominique
c'est
Muller?
C'est très moderne en même temps. C'est formidable, oui. Parce que ça ne tombe pas dans l'orientalisme plat. Ouais, là, au contraire, ouais. Ça ajoute une note contemporaine formidable. Mm-hmm. Je vois que j'ai déjà écrit cette critique.
Pour d'autres auteurs, peut-être. Et vous, Lucas Fournier, c'est pareil, on est un peu ailleurs.
On est en France.
On est en France, bon.
Oui, parce qu'il y avait deux mots qui... Limousine et Mouezzine.
Oui.
Qui forcément nous ramènent à la gare de Limoges, qui, vous le savez, porte à une sorte de minaret
ah,
oui. gigantesque.
Ah, c'est vrai.
Et magnifique,
oui.
d'ailleurs.
Ah, oui.
Et donc, c'est Limoges qui m'a conduit à ce poème,
oui.
qui est tiré d'un recueil de poèmes chroniques de Guillaume Lespinasse,
oui.
qui s'appelle celui-ci, ce recueil, « Mes premières fois ».
Oui.
Voilà. Et là,
c'est un classique.
Oui, et là, ce poème s'appelle « Première télé ».
C'est de l'Alexandrin ?
C'est de l'Alexandrin. Ouais. Il passe à la télé pour son livre « Churros ». Il y a une note en bas de page. « Churros » de Guillaume Lespinasse, édition Limougeaud, 490 pages, 21 euros, 2003, épuisé. Il passe à la télé pour son livre « Churros », un roman Limougeaud, plein de fièvre et d'éros. Il regarde les autres au faciès interlope, un académicien qui s'en fort l'escalope et qui a publié « La vie de Cléopâtre », un poète qui met sur ses pieds des emplâtres. Il y a une nymphette, Lolita Emmanuel, dont le talent est mince, mais pas les deux mamelles. On parle, mais pas lui. Tous ces drôles de zèbres connaissent le direct, trémoussant leurs vertèbres pour placer un bon mot. La pub pour Citroën vient couper son récit d'amour sous les troènes. Lui, naguère brillant au zinc du bar-tabac, il n'est pas à la noce, c'est un vrai célibat. Allez, fais-la entendre ton histoire limousine. Parle haut, en direct. Chante, jeune mouezzine. Mais non. Il y a de l'eau dans le gazoduc. Il se tait, tremblotant, comme un vieil archiduc. On a rendu l'antenne. Il reste l'insurgé, tout seul sur le plateau des livres expurgés.
On a vu l'émission, hein. Ça c'est clair.
Le pauvre. Mais enfin, c'est normal, un poète ne sait pas s'exprimer, ne sait pas faire le clown.
Ne sait pas se vendre,
voilà,
en fait, tout simplement. Hein.
Mais bon, il tire de ses expériences quand même...
Une forme d'amertume.
Mais ses récits magnifiques et ses poèmes sublimes.
Bon, bien sûr, Lucas Fournier, votre poème, enfin, celui de Guillaume Lespinasse est somptueux, n'est-ce pas, madame la critique Dominique Muller?
Eh bien, je ne l'ai pas entendu comme ça.
Ah, ah. Bon
ah. Mais il faut dire que je suis chroniqueuse dans un journal de télé.
Ouais, donc on est loin de la poésie.
Comme ça s'intitule Première télé, qu'il semble pas très content de la réussite de cette émission, forcément.
C'est vrai,
je défends mon propre beefsteak, si je puis parler trivialement.
En attaquant son recueil.
Eh ben, un peu quand même.
Ah mon Dieu, Lucas Fournier, pourtant vous étiez amis jusqu'à présent, tous les deux.
Mais il m'a transmis le recueil de Guillaume Lespinasse.
Oui,
hein,
oui,
moi,
oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai, c'est caché. Alors qu'est-ce que vous écrivez?
Première télé, Guillaume Lespinasse. Première et dernière serait plus exacte. Monsieur Lespinasse est de la trempe de ses écrivaillons locaux. Ici, Limougeaud, mais il en existe de Bretons, Corses, Alsaciens, Basques, qui, feignant de chanter leur glèbe natale, Ker, Glébo, Glébu, Glebchen, Glebkazi, je vous passe leur coquetterie idiomatique. Ces écrivaillons, dont la gloire peine à atteindre les nouvelles frontières régionales, n'en rêvent pas moins de télévision nationale, où leur verve éclipserait les bons mots d'un ormesson, voire son obsession fielleuse de l'académie, les poitrines avantageuses de telle ou telle chroniqueuse, voire sa bave libidineuse sur une nymphette Lolita. Hélas, notre Guillaume, sans doute invité sur une chaîne sous-sol, underground dans Limougeaud, après avoir assiégé la patience d'un sous-fifre, semble n'avoir pas ouvert la bouche. N'est pas Modiano qui veut Lespinasse. Il y a, hélas, des silences qui n'en disent long sur rien. Mais ce rien, étiolé devant une implacable caméra, il n'entend pas le taire. Voici qu'il en fait tout un poème qui s'intitulerait plus justement « Comment j'ai fait un plat de rien du tout ». Ce qui évoquerait d'ailleurs un titre à la Ormesson. Soyez vous-même, Lespinasse, un poète pour pot de départ dans une manufacture de porcelaine. Ne crachez pas dans une soupe qu'on ne vous a pas servie. Et laissez les autres la déguster à leur guise, sans y ajouter vos louches d'amertume. Mais peut-être dans un magasin de porcelaine faut-il toujours un éléphant. Dans ce cas, c'est réussi.
On y a du bien de moi. Voilà.
Alors là, vous êtes démoli, l'espinasse. Bah, elle est drôle quand même.
C'est pas
elle est rigolote, elle est féroce, mais elle est rigolote.
C'est la patronne du journal de télé, forcément, qui m'a dit, vas-y, t'appelles.
Bah, oui. Mais voilà, mais que voulez-vous répondre à la calomnie ? Rien, je ne dirai rien. Voilà.
Bah, après, c'est
ce qu'on appelle
bien.
Le silence de la mère. L'apostrophe, madame.
Alors, heureusement pour vous, Jacques G., vous n'avez pas été chroniqué par Dominique Muller. Autrement, ça aurait été votre fête
aussi. Honneur.
Enfin, je veux dire, pas Jacques Jouet, mais Zigua Ibn Bonino, c'est ça, Bonino. Hein, vous n'avez pas un nom facile, quand même, comme pseudonyme. Et c'est Jacques Vallée qui s'est chargé de vous. Hein, Jacques Vallée, bon, on le connaît au Papou, mais il a des petits boulots ailleurs, évidemment, il faut vivre. Hein.
Ah oui, moi j'écris dans la revue du gazoduc. Comme le titre du recueil était « Les gaz », quelqu'un a cru bon de l'envoyer. Alors moi, je n'ai jamais fait de chronique de poésie, mais là, je connais cet auteur.
Ah, quand même, oui.
Mais pas sous son pseudonyme actuel.
Ah oui, oui.
C'est
oui.
Ce qui me chiffonne.
Ah bon, oui. Oh, ça ne s'annonce pas bien non plus pour vous. Hein.
Toute la prétention de Jean-Paul Ridoux, qui est un habitué de la poésie quotidienne, banale, quelconque, ordinaire, populaire, soit dit en passant une poésie efficace, touchante, toute sa prétention, dis-je, est résumée par le pseudonyme qu'il prend quand il se targue d'une veine orientaliste, Zigua Ibn Bonino. Le ton du poème nous ramène au XIXe siècle, lorsque les romantiques se tournaient vers l'Orient comme des croyants vers la Mecque et accouchaient d'un Gautier, d'un Flaubert. Dès le premier vers, la reine chevauchait le long du gazoduc. On se croirait revenu chez ce déplorable Salammbô du déplaisant Flaubert. Cantion du ridicule qui peut naître de cette ressucée des siècles ensevelis sous les décombres d'un Carthage de carton-pâte, notre Jean-Paul Ridoux, pardon, monsieur Zigua Ibn Bonino, truffe sa vision obsolète d'éléments modernistes pour nous faire croire que son recueil « Les gaz » est bien senti, bien d'actualité. Aussi mêle-t-il au nez de Cléopâtre, à cause des gaz, quelques zingues de bar tabac, quelques Citroën diesel. Bref, monsieur Zigua Ibn Bonino, revenez, je vous en prie, à la poésie quotidienne où vous excellez. Il y a d'ailleurs, pour être juste, dans ce poème, une musique alexandrine qui suffirait comme orientalisme. Rendez-nous Jean-Paul Ridoux.
Ah, oh, bon, il y a quand même un message d'espoir, il y a une envie derrière ça, derrière la violence du propos.
Bah, je m'interroge sur le lectorat de la revue du Gazoduc. Je ne pense pas que ça va me faire beaucoup d'ombre, au fond.
Est-ce que Dominique Muller, vous pensez qu'il méritait ça, son poème ?
Non, pas du tout, parce qu'il est novateur. Et au fond, une fois de plus, les critiques montrent qu'il déteste que les gens sortent de leur case.
Oui.
C'est le cas de le dire, n'est-ce pas ?
Oui, oui.
De leur tente, enfin,
de leur
bref.
Tente.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours à la page des papous. Et puis rejoignez-nous sur Facebook, vous y êtes les bienvenus, nous sommes entre amis. Au revoir, on se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres jeux papous. En attendant, passez un bel après-midi, une bonne semaine à l'écoute des programmes de France Culture. Vous y serez toujours en bonne compagnie.
Quoi, quoi ? Ah !